Vous êtes sur RTL.
There is a killer on the loose. I don't know who it is. I don't know if it's a he or a she.
Jusqu'à 21h sur RTL, l'heure du crime en Amérique. Jean-Alphonse Richard.
Bonsoir. Qui a tué la petite Miss Amérique? Presque 24 ans après la mort de John Bennett Ramsey, 6 ans, reine absolue des concours de beauté pour enfants, l'affaire demeure un insondable mystère. À la Noël 1996, dans la nuit du 25 au 26 décembre, dans une vaste maison en briques rouges de la petite ville de Boulder, dans le Colorado, quelqu'un sort la petite John Bennett de son lit d'enfant, la tue, la violente et abandonne son corps au sous-sol de la demeure. Un crime à huis clos, en pleine nuit, dans la maison familiale, sans cri et sans témoin, un cluedo macabre qui soulève bien des questions et des angoisses. Qui s'est introduit dans la maison cette nuit-là? Pourquoi? Personne n'a rien vu, rien entendu. Qui en voulait à cette petite fille de 6 ans? Un pédophile qui aurait repéré cette mini-miss blonde habillée comme une adulte, dont la photo s'est allée alors dans les journaux, un rôdeur? Et enfin, cette question terrible. Et si le coupable faisait partie de la famille? Son père, sa mère ou son frère âgé de 9 ans serait-il impliqué? La piste familiale sur fond d'inceste ne va cesser de hanter l'Amérique. Qui a tué la petite reine de beauté et pourquoi? C'est à ces interrogations que nous allons essayer de répondre ce soir dans l'heure américaine du crime. Dernier épisode de notre série spéciale USA cette semaine. Le mystère John Bennett Ramsey, qui en voulait à Baby Barbie? C'est l'enquête ce soir de l'heure américaine du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime en Amérique sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
RTL. 20h, 21h, l'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure américaine du crime consacrée ce soir au meurtre en 1996 de John Bennett Ramsey, 6 ans, la plus célèbre mini-miss des États-Unis, une enfant star dont les photos font sensation. Elle venait tout juste de fêter Noël en famille. Ce 26 décembre 1996, Patsy Bennett sort de son lit sans faire de bruit. Il est 5h30 du matin et la maison est endormie. La mère de famille ne veut pas réveiller son mari, John, et les deux enfants du couple, leur fils Burke, 9 ans, et leur petite fille, John Bennett, 6 ans. Les Ramsey habitent depuis quelques mois ce vaste chalet, pas moins de 15 pièces, entouré de pelouses dans un quartier résidentiel de la cité très paisible de Boulder, dans le Colorado. Une ville où la délinquance est au plus bas et les crimes de sang rarissimes. Les Bennett ne sont pas forcément très discrets, ils affichent un luxe ostentatoire et ils comptent parmi eux une petite célébrité. Leur fille, John Bennett, Miss Amérique, catégorie enfant, une poupée blonde qui remporte alors tous les concours de beauté. Patsy Ramsey emprunte l'escalier qui mène à la cuisine pour, dira-t-elle, prendre un café. Sur l'une des marches, elle aperçoit trois feuilles manuscrites. Ce qui est écrit est stupéfiant. Une demande de rançon. Il est indiqué que John Bennett a été enlevé. Elle sera rendue à la famille contre le versement non pas de millions de dollars, mais de 118 000 dollars. Il est précisé que 100 000 doivent être versés en billets de 100 dollars, les 18 000 restants en coupure de 20. La note précise que ce montant correspond au bonus de fin d'année touché par John, le père de famille, entrepreneur millionnaire dans l'électronique, et demande de ne pas prévenir la police. Patsy explique alors être remontée à toute vitesse dans la chambre de sa fille sans y trouver la moindre trace de John Bennett couché la veille vers 21h. La mère de famille réveille son mari et compose le 911, la police. Vingt minutes plus tard, l'officier de police Rick French arrive à la villa. À l'extérieur, la neige recouvre la pelouse, un tapis immaculé. Il ne note aucune trace de pas ni de présence particulière. À l'intérieur de la demeure, le couple Ramsey est affolé. Le policier fait une rapide visite des lieux, un coup d'œil pour vérifier que la petite fille n'est pas cachée ou endormie dans l'une des pièces, mais John Bennett demeure introuvable. En fin de matinée, la détective Linda Arndt est sur place. Elle demande au père John Ramsey et à un ami venu le réconforter, Fleet White, de fouiller de fond en comble le chalet. Sur le coup de 14 heures, le père de famille émerge en hurlant depuis le sous-sol, le corps de sa fille dans les bras. Joan Bennett est morte, assassinée. Bonsoir Thomas Cantaloube.
Bonsoir.
Vous étiez journaliste, vous êtes toujours journaliste, mais vous étiez à l'époque aux États-Unis au moment de l'affaire. Vous étiez à l'époque correspondant dans ce grand pays pour plusieurs journaux français. Vous avez suivi cette affaire. Alors, je viens de le dire, Joan Bennett est morte. On va évidemment entrer dans l'enquête, mais pas tout de suite. Revenons, si vous voulez bien, Thomas Cantaloube, sur le lieu du crime. Plantons le décor. Qui est cette famille, les Ramsay, et où habitent-ils dans cette immense villa ?
Donc cette famille, comme vous l'avez bien dit, c'est une famille assez riche qui a déménagé à Boulder, qui n'est pas originaire de Boulder au départ. Mm-hmm. Ils ont déménagé et Boulder, c'est un peu, voilà, c'est une ville très proprette, très jolie, où tout est centré autour de l'université. En préparant l'émission, j'ai retrouvé un article que j'avais écrit à l'époque où j'écrivais que c'était la ville où il y avait le plus grand nombre de docteurs au sens universitaire, hein, qui ont un doctorat, par habitant aux États-Unis. Donc voilà, c'est une ville universitaire avec beaucoup de gens assez fortunés, très intellectuels. Et effectivement, cette mort, qui plus est survenant le lendemain de Noël, est un choc,
même un séisme, hein, puisque c'est une ville, effectivement, vous l'avez très bien dit, résidentielle, plutôt huppée. Alors, un mot, Thomas Cantaloube, sur cette famille. Ils sont riches, ils ont pignon sur rue, le père, je crois, est un entrepreneur qui a beaucoup de succès, c'est ça ?
Voilà, il a eu du succès en fait, parce qu'il a vendu ses actions dans une start-up qu'il avait montée à l'époque. Donc, ils sont riches, mais il y a aussi beaucoup de gens comme eux à Boulder. Ils sont pas uniques. Ils sortent pas foncièrement de l'ordinaire des gens riches. Et le père continue à être ingénieur en électronique. Voilà, ils sont ni marginaux, ni...
C'est ça, ils sont dans la norme, dirons-nous.
Oui, ils sont dans la norme, voilà, ça, ils sont pas plus intégrés que d'autres à la ville, parce qu'ils sont pas originaires de la ville, mais ils sont pas non plus tape à l'œil, ils sont pas en dehors, voilà, c'est une famille assez ordinaire de la classe supérieure, dirons-nous.
Alors, présentez-nous tout de même cette petite Miss, Joan Bennett, la plus jeune de la famille, mais la plus célèbre, hein, c'est ça ?
Voilà, exactement, c'est la petite dernière, elle a 6 ans en 96, c'est effectivement, elle a une image un peu de petite poupée blondinette, et sa mère la présente donc à des concours de beauté. Pourquoi ? Parce que sa mère elle-même a participé à des concours de beauté plus jeune, et on peut penser qu'elle se projette au travers de sa fille, voilà, en la présentant à ces concours.
C'est ça, cette petite Joan Bennett, elle est dans les journaux, elle commence à être populaire. Il faut dire, vous, Thomas Cantaloube, vous connaissez parfaitement les États-Unis. Mm-hmm. Les concours de Miss comme ça, classiques, ça existe et ça, c'est à foison, mais les mini-Miss, ça, c'est une vraie mode aussi à ce moment-là. Exactement, dans ces années 90.
Qu'on connaît pas trop, en fait. C'est un peu, effectivement, l'affaire Joan Bennett Ramsay qui propulse cette mode sur le devant de la scène. On l'a vu depuis dans un film qui a eu un petit succès qui s'appelle Little Miss Sunshine. Mais voilà, c'est quelque chose, effectivement, où les parents emmènent leurs enfants. Parce qu'à 6 ans, je pense que le libre arbitre de Joan Bennett Ramsay n'est pas très prononcé. Donc on l'emmène. Elle s'habille comme des grandes. Et ça, aujourd'hui, effectivement, avec le recul, 24 ans après, ça choque un peu. C'est un peu curieux. Mais à l'époque, c'est normal, voilà. C'est des enfants, hein. C'est pas encore des jeunes filles, des enfants qui posent et qui défilent un peu habillés comme des grandes.
Un règne de Miss interrompu par une mort brutale. Plus question de disparition, mais bel et bien de meurtre. Dès le début, l'enquête va se heurter à des silences, des étrangetés et des indices qui ne donnent aucune clé. Le mystère Joan Bennett Ramsay, qui a tué la petite reine de beauté et pourquoi ? L'enquête ce soir dans l'heure américaine du crime sur RTL. On se retrouve dans un instant.
Jusqu'à 21h sur RTL.
L'heure du crime, spéciale semaine américaine.
Jusqu'à 21h sur RTL, l'heure du crime en Amérique. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir, dans l'heure américaine du crime, l'affaire Joan Bennett Ramsay, la mini-miss de beauté 6 ans, était portée disparue depuis quelques heures quand on l'a retrouvée morte dans la maison familiale, ce 26 décembre 96, une intrigante scène de crime. Une vingtaine d'heures après sa découverte, le corps de la petite John Bennett est glissé dans une housse, placé sur une civière et emporté par le médecin légiste de Boulder. L'autopsie, qui ne sera rendue publique qu'un an et demi plus tard, révèle que l'enfant avait un large sparadrap sur la bouche. Elle portait aussi des traces de liens autour du cou et autour du poignet droit, signifiant qu'elle a été ligotée. John Bennett Ramsey a été étranglée. Elle a reçu également un coup très violent sur la tête, suffisant pour lui ouvrir le crâne et causer une plaie d'une vingtaine de centimètres. Il est enfin établi qu'elle a subi des violences sexuelles accomplies à l'aide d'un objet oblong. Des traces de sang sur les parties génitales en témoignent. L'heure de la mort est imprécise, dans la nuit du 25 au 26 décembre. L'inspectrice de la police de Boulder, Linda Arndt, a le sentiment que l'enquête démarre mal. Elle avait demandé au père de John Bennett de rechercher sa fille dans la maison, mais en cas de découverte, de ne toucher à rien. C'est tout le contraire qui s'est produit. John Ramsey a retrouvé le corps de sa fille dans un grand placard au sous-sol, un réduit dans lequel avaient été cachés deux jours auparavant les cadeaux de Noël. Il s'est aussitôt emparé du corps, a arraché l'adhésif qui obstruait la bouche de John Bennett, a emporté la dépouille dans ses bras jusqu'à l'étage, a touché le visage, a essuyé une partie du sang et a enroulé le corps dans une couverture. Des gestes effectués par un père éploré, mais qui ont très certainement effacé des indices. Les enquêteurs s'intéressent à la note manuscrite, la fameuse demande de rançon déposée sur l'escalier. Les trois pages proviennent d'un bloc-notes qui appartient à Patsy Ramsey, la mère, tout comme le stylo qui a servi à la rédaction. Qui est l'auteur de cette demande de rançon ? Probablement pas quelqu'un venu de l'extérieur. Aucune trace n'a été remarquée dans la neige fraîche. Aucune effraction constatée sur les portes et les fenêtres fermées cette nuit-là à double tour à cause du froid. Le 31 décembre se déroulent les funérailles de John Bennett. Le lendemain, les parents témoignent à la télévision. Ils disent « Il y a un tueur qui court dans la nature. Nous sommes de bons chrétiens. Nous aimons nos enfants. Nous ferions tout pour nos enfants. » Thomas Cantaloube, vous êtes toujours en ligne avec nous ce soir dans l'heure américaine du crime. Je disais que vous avez suivi cette affaire à l'époque. Un mot tout de suite sur cette très étrange note manuscrite retrouvée sur cet escalier par la mère de famille. J'ai envie de dire, dans un premier temps, pas étonnant de demander de l'argent à quelqu'un de riche comme est le père de John Bennett, même si ici tout est un peu bizarre, y compris la somme demandée.
Ben exactement, la somme demandée est très précise, c'est 118 000 dollars. Alors on peut se demander pourquoi, mais le père de John Bennett Ramsey comprend tout de suite, ça correspond à peu près au montant de son bonus qu'il a touché l'an passé. Mm-hmm. Donc il pense que c'est quelqu'un qui est au courant, donc soit quelqu'un de son entourage proche, soit à son entreprise. Et la police investiguera du côté de son entreprise. Et puis ensuite, cette lettre, comme vous l'avez dit, elle fait 2 pages et demie. C'est assez étonnant et je crois que quelques années plus tard, John Douglas, le grand spécialiste du FBI des tracks de serial killer, dira « j'ai jamais vu ça de ma carrière ». Une lettre de 2 pages et demie qui en plus apparemment avait donné lieu à un brouillon, puisque les enquêteurs ont retrouvé sur le carnet la trace inversée d'un brouillon qui avait été fait. Donc tout ça est très étrange dès le départ.
C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Je crois que les enquêteurs vont fouiller et ils vont déterminer que ce mot a été écrit finalement après le meurtre. Est-ce que ça sera avéré, cette histoire, ou pas ?
Cette histoire est toujours débattue. En fait, on n'a jamais réussi à élucider complètement le mystère de cette lettre anonyme. Il y a eu, je crois, plus d'une demi-douzaine d'experts, de graphologues qui sont intervenus, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord. La datation de cette lettre a été extrêmement compliquée. La mère a été disculpée, le fils aussi, et le père aussi. Voilà, donc en fait, tous les gens qui avaient accès à ce calepin, à ce bloc-notes, ont été disculpés. Donc c'est extrêmement étrange.
Extrêmement étrange. Dans tous les cas, cette lettre a été écrite, évidemment, dans la maison, sur un bloc-notes qui appartient, on l'a dit, à la mère de famille. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous dites que les enquêteurs travaillent sur le père, et notamment sur sa société ? On peut ne pas exclure peut-être un chantage, une tentative de chantage, c'est ça ?
Ben, au départ, c'est ça, oui, puisque d'ailleurs la lettre dit voilà, contre une rançon, on libérera votre fille. Et d'ailleurs, le père part à sa banque chercher l'argent hein, au départ, hein, avant de retrouver le corps. Mmh. Donc, ça ressemble à une forme de chantage, mais en même temps, il semble que une fois que la lettre est découverte, la petite John Bennett Ramsey est déjà morte. Donc, c'est extrêmement bizarre. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que malheureusement, les enquêteurs vont se diviser en deux camps, en quelque sorte. Hein.
Déjà, à ce moment-là, ouais.
Voilà, ça, bah, déjà, le premier élément, c'est que la scène du crime est malheureusement très maltraitée. Il y avait de la neige dehors, mais les policiers et la famille, un peu paniqués, font trois fois le tour de la maison, donc toutes les traces qui pouvaient exister disparaissent. Ensuite, ils cherchent partout dans la maison, et comme vous l'avez raconté, le père, paniqué, récupère le cadavre de sa fille, et effectivement, il y a aussi d'autres policiers dans la maison, ils rentrent dans le placard, ils ressortent, enfin, voilà. C'est une scène du crime qui est quasiment inexploitable, et c'est un peu la faille initiale, le point de départ initial qui fait que bah, cette affaire aujourd'hui est encore oui, c'est ça. Et irrésolue.
Exactement, le point de départ, comme quoi ça part très mal et qu'il va y avoir du mal à rattraper tout ça. Alors, évidemment, il y a des policiers qui vont dire les indices ont disparu, la scène de crime a été saccagée, donc c'est très compliqué d'avancer. Et puis, il y a aussi, ce que vous dites, un petit peu les deux camps. Il y a l'autre camp qui va dire, attention, les parents, ils sont pas très clairs, et puis tout ça, c'est un crime à huis clos, personne n'est rentré dans cette maison. Déjà, la tension, on le sent, hein, très vite, se porte sur les parents.
Exactement. Et c'est là que ça se divise en deux camps. En gros, les policiers s'orientent vers la culpabilité des parents. C'est pas non plus un hasard, parce qu'on sait très bien que les statistiques dans ce genre de cas pointent à une immense majorité vers la famille. Mmh. Mais le camp du procureur, eux, sont beaucoup plus sceptiques dès le départ. Ils se disent... rien n'a poussé les parents à ça, ça ressemble à une mise en scène, c'est extrêmement bizarre. Donc voilà, dès le départ, il y a cette division entre le bureau du procureur et la police qui va perdurer en fait encore jusqu'à aujourd'hui.
Division au sein des enquêteurs, même si beaucoup de policiers ne croient pas vraiment à la piste de l'intrus. Ils vont donc concentrer leurs efforts sur la famille Ramsey. La demande de rançon est une grosse ficelle, sans doute destinée selon eux à faire diversion. Père, mère, frère, l'un des trois serait-il impliqué dans ce crime ? La mort de John Bennett Ramsey, son assassin fait-il partie de la famille ? L'enquête de l'heure américaine du crime, ce soir sur RTL, à tout de suite.
20h, 21h, l'heure du crime en Amérique sur RTL.
Little Something, duo de Melody Gardot et Sting, c'est l'extrait du nouvel album de Melody, Sunset in the Blue, dans l'heure du crime, ce soir sur RTL.
20h, 21h, l'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure américaine du crime, consacrée ce soir au meurtre de la petite reine de beauté, John Bennett Ramsey. Un crime à huis clos dans une maison où ne se trouvaient que les parents de la mini-miss et son frère. C'est à eux que s'intéressent en priorité les enquêteurs. 4 mois après la découverte du corps de John Bennett, l'équipe d'enquête de la police de Boulder a une intime conviction. Elle estime que le meurtrier de la petite fille figure au sein d'un trio bien précis. Le père, John Ramsey, riche président de la société Access Graphic, 53 ans. La mère, Patsy Ramsey, 39 ans, ex-miss qui souhaitait faire de sa fille une reine des podiums. Et Burke Ramsey, 9 ans, le frère de la victime. Le 19 avril 1997, la famille est officielle. Officiellement suspecté du crime, le procureur de Boulder, Alex Hunter, confirme « Toute notre attention, dit-il, se porte sur ces personnes ». Les Ramsey attirent tous les doutes. Ils ont accepté de donner des échantillons de leurs cheveux et de leur sang, mais ils refusent de se soumettre aux détecteurs de mensonges. Ils ont engagé des détectives pour lancer une contre-enquête. La police de Boulder, elle, ne cesse de leur tourner autour, multiplie les vérifications. Les deux enfants issus du premier mariage de John Ramsey, qui n'étaient pas à Boulder la nuit du meurtre, sont interrogés, leurs alibis contrôlés. La police procède aussi à l'analyse graphologique de toute la famille. le résultat est troublant. L'écriture sur la lettre de demande de rançon n'est pas celle du père, mais un expert affirme qu'elle pourrait être celle de Patsy, la mère. Le chef adjoint d'enquête, Steve Thomas, penche alors pour le scénario suivant. La mère aurait donné une correction à sa fille, elle aurait tué accidentellement. Elle aurait écrit cette lettre dans la panique pour brouiller les pistes. Mais pourquoi cette mère aurait-elle infligé de telles blessures, notamment intimes, à sa fille bien-aimée? Le père, John Ramsey, n'échappe pas non plus aux soupçons. Il a manipulé le corps, par ailleurs, il ne s'est pas vraiment préoccupé, pas plus que sa femme, de l'échéance de la remise de rançon fixée dans la fameuse lettre à 10h du matin, comme s'il savait déjà que sa fille était perdue. L'inspectrice Linda Arne estime que John Ramsey en sait beaucoup plus qu'il ne dit sur le crime. Veut-il couvrir quelqu'un, son épouse ou pourquoi pas son fils Burke? Lui aussi est soupçonné. Aurait-il tué sa petite sœur à cause d'une simple dispute ou par jalousie? Par le passé, il se serait montré brutal avec John Bennett. Des soupçons mais aucune preuve. Les Ramsey nient. Au mois de janvier 1998, un peu plus d'un an après le crime, ils font savoir qu'ils ne répondront plus aux questions de la police. Thomas Cantaloube, on vous retrouve au téléphone de l'heure américaine du crime ce soir, ancien correspondant aux États-Unis pour plusieurs journaux français. Vous avez couvert cette étrange affaire aux États-Unis à l'époque. L'Amérique, à ce moment-là, vraiment se passionne totalement pour cette histoire de famille.
Oui, absolument. Et c'est un des facteurs qui joue beaucoup dans cette enquête. C'est-à-dire que dès le lendemain du crime, un véritable cercle médiatique, en fait, débarque à Boulder avec les chaînes de télévision, la presse tabloïde. Et ça devient, ça pourrit aussi l'enquête en quelque sorte, puisque la presse tabloïde notamment achète des informations à des informateurs qui sont pas vraiment fiables, et ils publient des choses qui se sont avérées fausses par la suite. Les caméras campent devant la maison des Ramsey. Les Ramsey étant soupçonnés par la police, cherchent à se défendre en donnant des interviews à la télévision. Mmh. Et donc tout ça, ça ressemble un peu à ce qu'on a connu en France au moment de l'affaire Grégory, où tous les médias se fondent sur une petite ville, un endroit, et ça devient un cercle médiatique.
Oui, c'est ça, c'est unité de géographique presque pour ce crime. Et puis d'ailleurs, les Américains diront que ça ressemble aussi à l'affaire O.J. Simpson par son retentissement. Hein, on va comparer cette affaire. J'ai évoqué la présence des détectives privés qui sont embauchés par la famille. Il va y en avoir plusieurs. Ça aussi, c'est une habitude aux États-Unis et ça va parasiter l'enquête finalement. Il va y avoir deux enquêtes un petit peu parallèles, c'est ça ?
Oui, je dirais pas que c'est une habitude, mais effectivement, sachant que les Ramsey sont assez fortunés, ils embauchent leur propre détective qui, effectivement, l'intérêt des détectives, c'est de défendre la famille. Donc, eux vont chercher effectivement à finalement enfoncer un peu les preuves de la police ou en tout cas la scène du crime parlant qui a été très mal conduite, très mal menée. Voilà, ils vont quelque part miner la police, donc c'est une espèce de mini-guerre entre des inspecteurs qui effectivement ne facilite pas le travail à la fois de la police officielle, du bureau du procureur, et là-dedans les médias publient un peu toutes les informations qui leur sont données sans forcément vérifier.
Alors, autre habitude américaine et que vous connaissez, Thomas Cantaloube, en matière de justice, c'est le fameux détecteur de mensonges qui n'existe pas chez nous, mais là-bas, ça a l'air d'être une religion absolue. Pourquoi est-ce que les parents expliquent pourquoi ils refusent à l'époque le détecteur du mensonge du FBI, je le précise?
Oui, ils refusent parce que effectivement ils sont braqués contre la police, parce que la police, effectivement, comme on l'a déjà dit, se focalise sur leur culpabilité ou leur responsabilité, et donc ils ne veulent plus collaborer avec la police, y compris avec le FBI, même si le FBI et donc la police fédérale, ce sont des agents expérimentés qui viennent d'ailleurs, voilà, probablement parce que les avocats des Ramsey leur ont conseiller de ne pas passer au détecteur de mensonges, qui n'est pas non plus une technique extrêmement fiable, il faut le dire. Donc voilà, ils refusent et du coup Mais c'est vrai que ça attire la suspicion sur eux.
Ça va renforcer les soupçons déjà qui sont assez lourds sur leur tête. D'autant plus que dans cette histoire, il y a quand même quelqu'un qui fait figure de suspect, et c'est pas habituel, c'est tout simplement le grand frère de la petite Miss. Je rappelle qu'il a seulement 9 ans à l'époque, mais on va quand même vraiment le presser de questions et s'intéresser à lui côté policier.
Ben oui, parce que voilà, une des hypothèses sur lesquelles la police travaille et a longtemps travaillé, c'est le fait d'un accident voilà, dans la famille, accident ou voilà ou violence entre enfants, et une dissimulation du crime pour préserver leur fils et ne pas qu'il soit accusé et du coup entraîné dans une procédure judiciaire et finir en maison de correction. Donc c'est une des hypothèses sur lesquels on travaille, mais voilà, elle n'aboutira pas plus que les autres, mais effectivement voilà, et les parents défendent leur fils quoi, qui effectivement, rappelons, vous l'avez rappelé, avait 9 ans à l'époque, donc c'est très petit.
C'est tout petit, même si on dit que par le passé il a eu des mots avec sa petite sœur, il y a rien de surprenant à cet âge-là, évidemment.
Bien sûr, oui.
Les Ramsay vont continuer à s'en tenir mordicus à une seule et même version, celle de l'intrusion d'un maniaque, d'un pédophile dans leur maison, quelqu'un qui aurait voulu enlever John Bennett puis l'aurait lâchement assassiné. Les enquêteurs n'ont pas de preuves, mais ils souhaitent qu'un grand jury prélude d'une possible mise en accusation enquête sur leur compte. Le meurtre de John Bennett Ramsay. Les parents en ligne de mire, mais sont-ils coupables? L'enquête ce soir de l'heure américaine du crime sur RTL. À tout de suite.
L'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL.
20h, 21h, l'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure américaine du crime où nous revenons ce soir sur le meurtre de la petite Miss Amérique, John Bennett Ramsay. Les enquêteurs soupçonnent les parents de tout savoir de ce crime stupéfiant, bien décidés à trouver contre eux des preuves solides, à moins que ce crime soit l'œuvre d'une autre personne. Le 12 mars 1998, le procureur de Boulder demande la constitution d'un grand jury sur le meurtre de John Bennett. Étape judiciaire qui permet d'enquêter en profondeur sur le dossier et de dire si des charges peuvent être retenues contre tel ou tel suspect. La police fait savoir que 1058 indices ont été relevés dans la maison du crime et que certains se révèlent probants sans autre explication. Un ADN masculin inconnu a bien été retrouvé sur le lieu du crime, mais il ne matche pas avec celui du père de famille ni avec celui de son fils. Malgré cela, la famille Ramsay va devoir s'expliquer à plusieurs reprises, interroger dès le début sur un élément troublant, sur l'appel d'urgence au 911. On entend la voix en fond de Burke, le frère aîné de John Bennett, alors que ses parents affirmaient qu'il dormait à cette heure-là. Burke est placé au rang des suspects. Il sera mis hors de cause un an plus tard par le grand jury après une audition à huis clos. Si les parents de John Bennett Ramsay restent en permanence au cœur des investigations, un peu trop même au goût de certains enquêteurs, d'autres pistes sont évoquées. Holly Gray, le détective privé de la famille Ramsay, s'est intéressé à un homme connu pour agression sexuelle et pédophilie, un certain Gary Oliva, qui habite dans le coin. Piste séduisante, les nœuds pratiqués pour attacher la petite reine de beauté sont identiques à ceux qu'Oliva avait réalisés lors d'une précédente agression. L'homme a toutefois un alibi et l'ADN le disculpe. Oliva s'accusera du meurtre en 2019, mais ses aveux seront considérés comme fantaisistes. Un électricien, en mauvais terme avec la famille Ramsay, est également soupçonné. Une empreinte de botte retrouvée près de la maison des Ramsay concorde avec son pied. Michael Elgott n'aura pas le loisir de s'expliquer. Il se suicide en pleine enquête en 1997. Son ADN ne correspond pas. Après 2 ans d'interrogatoire et de contre-interrogatoire, de recherche et de vérification, 13 octobre 1999, le procureur Hunter se rend à l'évidence. Aucune preuve n'a été trouvée dans l'affaire John Bennett Ramsay. Pas assez d'éléments pour mettre quiconque en accusation. L'inspectrice Arndt, qui défend depuis le début la thèse d'un crime familial, démissionne. Dans une émission télé, elle affirmera qu'elle connaît le tueur mais ne peut pas donner son identité. Elle n'ira jamais beaucoup plus loin. Thomas Cantaloube, en ligne ce soir dans l'heure américaine du crime. Vous avez enquêté à l'époque sur cette histoire et vous étiez aux États-Unis. J'ai envie de dire 2 ans d'enquête, ce qui est long tout de même. Retour à la case départ, la case mystère. Et pourtant, on a l'impression que le grand jury n'a rien laissé au hasard.
Non, parce que le grand jury, en fait, les documents qui avaient été donnés au grand jury, effectivement, tendaient à une inculpation des membres de la famille Ramsey. Mais le procureur, qui a la décision finale, a dit non, moi je veux pas emmener ça devant un tribunal parce que je vais perdre ce procès, il y a pas assez d'éléments. Mm-hmm. Donc voilà, le grand jury, finalement, enfin... Parce que le grand jury, c'est un peu des jurés avant l'heure, en quelque sorte.
Expliquez-nous en quelques mots, Thomas Cantaloube, parce que le grand jury, nous, on ne connaît pas, évidemment, en France. Hein, donc c'est, non, et ça n'a rien à voir avec le jury d'une cour d'assises, dites-nous.
Exactement, c'est pas ça. C'est avant un procès, en fait, on présente les éléments à charge et à décharge rassemblés par les enquêteurs à des jurés, qui sont des citoyens ordinaires, et ils doivent décider si, oui ou non, on met en accusation, et donc, du coup, on s'oriente vers le procès. Donc, c'est une sorte d'étape préalable, ce sont des jurés qui préalablement décident ou pas s'il va y avoir procès. Et les jurés tendaient à penser qu'il y avait matière à faire un procès et à inculper les membres de la famille Ramsey. Et le procureur, lui, a dit non. D'un point de vue judiciaire, du point de vue juridique, je n'ai pas assez d'éléments. Ça n'ira pas jusqu'au bout.
Donc, je laisse tomber l'affaire, en quelque sorte. J'ai évoqué, là, dans ce résumé de ces longs débats qui ont duré 2 ans devant ce grand jury, la fameuse histoire de l'appel au 911. Et effectivement, cette bande, elle va être décryptée par des spécialistes de la police. On va essayer de trouver qui parle derrière, des bruits bizarres et tout. Et effectivement, on va trouver la voix du fils de la famille qui ne devrait pas être debout à cette heure-là. Est-ce que ça a beaucoup intrigué à l'époque le grand jury, cette histoire ?
Oui, ça fait partie des éléments qui ont été retenus à charge contre la famille Ramsey, qui effectivement, on l'a déjà dit, c'est pas toujours montré très coopératif avec les policiers. Et donc, effectivement, cette voix... dont on pense que c'est Burke, mais d'autres experts ont dit que c'était pas lui, que c'était un bruit de fond, des choses comme ça. Voilà, il faut aussi se remettre à l'époque. Hein, les appels étaient enregistrés encore sur des vieilles bandes magnétiques. C'était pas voilà. Et, la même chose pour l'ADN. Hein. Bon, on savait identifier l'ADN et faire des recherches ADN, mais c'était pas encore au même niveau de technologie que 10 ans plus tard et encore moins aujourd'hui. Donc voilà, toutes les preuves qui pourraient faire qu'aujourd'hui on déterminerait avec plus ou moins de facilité une piste ou un coupable, on les avait pas à l'époque.
À l'époque, c'est beaucoup plus compliqué.
Hein, voilà. Hein.
J'ai évoqué aussi Thomas Cantaloube, les suspects. Ils vont être nombreux, 5-6 suspects en tout cas principaux qui vont apparaître dans l'entourage de la famille, l'électricien, etc. Un pédophile. Il y aura même un homme déguisé en Père Noël qui était là à la fête de fin d'année, qui va être plus ou moins soupçonné d'avoir commis le crime. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces suspects ? Il y a cette histoire étonnante de cet homme arrêté en Thaïlande.
Gary Oliva, oui. Effectivement, la police, les enquêteurs s'orientent tout de suite vers la piste pédophile, au sens où la petite John Bennett Ramsey, en tant que reine de beauté, avait eu sa photo dans les journaux. Il y avait déjà Internet à l'époque, et donc sa photo circulait. Donc, les enquêteurs se sont dit, est-ce que ça serait pas quelqu'un, un pédophile, ou quelqu'un qui collectionnait des images pédopornographiques, qui aurait commis le crime ? Et puis, vous savez, aux États-Unis, quand on a été condamné pour des crimes pédophiles ou des délits pédophiles, on est enregistré dans un registre on se déclare à la police. Mmh. Et effectivement, il se trouve qu'à Boulder, bon, on parle de petite ville, mais c'est une petite ville pour les États-Unis, mais c'est une grande ville pour la France. Hein. Il y a quelques dizaines de milliers d'habitants. Il y a un certain nombre de sex offenders, comme on dit, donc de gens qui ont un passif, qui ont déjà été condamnés pour des crimes sexuels, qui sont enregistrés dans un rayon de 10-20 km autour de la maison des Ramsey. Donc, ça fait un paquet de suspects. Par ailleurs, ça sort pas forcément de l'ordinaire, mais quand la police se met aussi à comptabiliser toutes les effractions qu'il y a pu avoir dans le quartier, puisque c'est un quartier résidentiel assez cossu, eh ben on en trouve plusieurs dizaines également des effractions qui ont eu lieu les derniers mois. Donc voilà, la piste du rôdeur ou de l'intrus dans l'extérieur n'a jamais été exclue. Et d'ailleurs, un certain nombre d'experts du FBI, qui eux travaillent sur dossiers par rapport à des statistiques, par rapport à des profits criminels, ont toujours penché pour la thèse de l'intrus extérieur. Mais encore une fois, ça revient, la scène du crime a été mal entretenue, elle a été salopée, pour le dire clair, crûment, et du coup, on peut pas déterminer si quelqu'un est vraiment venu de l'extérieur.
Des pistes qui restent ouvertes, même si le grand jury est dissous, l'enquête n'a pas porté ses fruits, elle reste toujours d'activité. Un élément nouveau peut à tout moment relancer les investigations. 6 ans après, en 2006, un homme, loin des États-Unis, va avouer le crime. Qui a tué John Bennett Ramsey? Le saura-t-on jamais? L'enquête ce soir de l'heure américaine du crime sur RTL, à tout de suite.
Jusqu'à 21h sur RTL.
L'heure du crime, spéciale semaine américaine.
Jusqu'à 21h sur RTL, l'heure du crime en Amérique. Jean-Alphonse Richard.
Heure américaine du crime avec ce soir l'enquête sur la mort à la Noël 1996 de la petite reine de beauté John Bennett Ramsey. Après 2 ans d'investigation, la famille de la victime, longtemps soupçonnée, a été mise hors de cause. Le dossier est parti pour devenir un cold case jusqu'à ce coup de théâtre au printemps 2006. Mai 2006, 10 ans après le meurtre de John Bennett Ramsey, un professeur de l'université du Colorado attire l'attention de la police sur l'un de ses collègues, un certain John Carr, 41 ans. Lors d'échanges de mails, Carr a fait des allusions à la petite miss de beauté. Il s'affirme fasciné par John Bennett, son visage, son allure, dit qu'il était amoureux d'elle avant le drame. En 2001, Carr a été emprisonné 6 mois pour possession de matériel pédophile. Il a alors perdu son job de prof en Californie et divorcé de sa femme. Carr vit désormais en Thaïlande où il est interpellé. Sur place, il avoue « J'étais avec John Bennett quand elle est morte. C'était un accident. Je l'aimais et elle est morte accidentellement. » À la question « Êtes-vous innocent ?», Carr répond par la négative. Cette fois, l'affaire John Bennett a peut-être trouvé son épilogue. Carr est rapidement transféré aux États-Unis. Il va s'avérer que l'homme raconte n'importe quoi. L'ADN ne correspond pas. La nuit du crime, il était dans l'Alabama avec son ex-femme. Carr est relâché, mais continuera de revendiquer ce crime imaginaire. Dès lors, l'enquête John Bennett Ramsey ne va plus beaucoup progresser. Au mois de mai 2000, pour bien prouver leur totale innocence, les parents Ramsey annoncent qu'ils sont passés enfin au détecteur de mensonges et que celui-ci n'a rien décelé de suspect. Examen non retenu par la justice, ce test n'ayant pas été effectué par le FBI, mais par un laboratoire privé payé par le couple. 6 ans plus tard, la mère de famille, Patsy Ramsey, décède d'un cancer. Elle est enterrée auprès de sa fille. 20 ans après le meurtre, le frère de la petite Miss donne une interview dans laquelle il exprime sa conviction. « Ma sœur a probablement été victime d'un pédophile dans le public d'un concours de beauté. » Thomas Cantaloube, journaliste, et vous étiez à l'époque aux États-Unis où vous avez suivi cette affaire. Un pédophile dans un concours de beauté, comme dit le frère de la petite Miss, de John Bennett, ben pourquoi pas finalement?
Oui, c'est une hypothèse qui a été sérieusement travaillée par les enquêteurs. Mais malheureusement, au-delà du cas de Carr et de quelques autres illuminés qui se sont déclarés coupables ou qui ont, des années après parfois, laissé entendre que c'était eux les criminels en laissant des messages sur des bords d'Internet, c'est une piste qui n'a jamais finalement abouti nulle part.
Qui n'a jamais abouti. Alors vous parlez de l'épisode John Carr que j'ai brièvement raconté à l'instant. Mai 2006, on est 10 ans après le meurtre, mais ça c'est vraiment la manière américaine de prendre les dossiers, de ne jamais lâcher côté policier. On va tout faire pour essayer de le retrouver et on va l'interpeller, hein. On va aller au sud de cette piste.
Oui, absolument, c'est 10 ans plus tard, mais le procureur de l'État a changé, les policiers ont changé, mais ça reste, comme on dit, un cold case, puisque c'est quand même assez rare d'avoir des affaires, en tout cas aussi emblématiques, qui restent irrésolues. Et donc, la police continue à observer toutes les pistes, à chercher, effectivement. Et pour le coup, là, John Carr, il se dénonce lui-même. C'est évidemment une dénonciation qui est fausse, et comme vous l'avez dit, il n'était pas sur les lieux du crime, la nuit du crime. Donc, voilà. Bon, faut pas non plus se cacher que le reste de la famille Ramsey a déménagé en Géorgie à plus de quelques milliers de kilomètres de là après quelques années. La mère de John Bennett Ramsey Patsy est morte
et d'un cancer, voilà. Hein, c'est ça. Elle est
morte. Exactement. Donc il faudrait une sacrée une énergie, un dynamisme que peut-être que la police de Boulder n'a plus aujourd'hui pour continuer à travailler cette enquête, mais en même temps, on l'a déjà vu, hein, on peut aussi de temps en temps, des fois faire parler l'ADN bien des années après.
Bien sûr.
On l'a vu récemment avec l'affaire Fourniret en France.
Tout à fait.
Quelqu'un peut toujours laisser un indice ou effectivement s'accuser véritablement. Pour l'instant, cet événement n'est pas arrivé.
Oui, vous parlez de l'ADN, il y a aussi l'assassin chez vous, aux États-Unis, de la Green River, qui avait été retrouvé des années après grâce à son ADN. On sait, Thomas Cantaloube, qu'il y a eu finalement deux camps dans l'opinion américaine quand l'affaire battait son plein. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette dichotomie entre ceux qui pensent que tout simplement, parlons clairement, c'est les parents, et puis les autres qui pensent que c'est plutôt un pédophile ou un rôdeur?
Oui, ça existe toujours et récemment d'ailleurs, il y a la grande chaîne américaine CBS a produit un documentaire et le frère Burke Ramsey s'est senti injustement accusé et a porté plainte en diffamation et il y a une transaction financière entre la chaîne et lui. Donc voilà, parce que
c'est important ce que vous dites là, parce qu'effectivement il y a eu ce documentaire sur CBS et qui est très à charge contre le frère de John Bennett. Ils vont même jusqu'à dire que effectivement il y avait plus que des disputes, il y avait de la violence, etc. Donc ils n'ont pas hésité, eux, à développer une thèse très très ouvertement.
Bah bien sûr, parce que voilà, ils ont en quelque sorte les statistiques avec eux, puisque là je vérifie en même temps que pendant l'émission, je crois que dans 11 cas sur 12 de ce genre de meurtre, c'est la famille qui est coupable. Donc statistiquement, ça tout accuse la famille Ramsey, mais en même temps, les preuves n'ont jamais été suffisantes. Donc voilà, après un documentaire, la thèse du documentaire, ils l'ont soutenu dans le documentaire, mais après, ils n'ont pas voulu aller au procès en diffamation parce qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre CBS. Donc il y a une transaction financière. Donc voilà, effectivement, comme vous disiez, il y a toujours un peu, deux camps, parce que de toute façon, il n'y a que deux hypothèses. Ou c'est au sein de la famille, ou c'est un truc extérieur. Donc sachant que ce n'est pas résolu et qu'il y a des preuves qui vont dans les deux directions, et voilà, on en est là aujourd'hui encore.
Et sachant que ce huis clos est extrêmement troublant, est-ce que, Thomas Cantaloube, est-ce que l'affaire John Bennett hante toujours la mémoire criminelle américaine?
Ben oui, voilà, c'est une affaire que, comme on disait, comme le Dahlia noir, comme des affaires très marquantes qui restent irrésolues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où on est capable de résoudre des affaires sur des bouts d'ADN, des choses comme ça, c'est extrêmement surprenant que 24 ans après, l'affaire n'ait pas été résolue.
N'est pas aboutie, bien sûr.
Voilà, surtout dans un cadre, effectivement, là, en revenant au début de l'émission, vous l'avez très bien cadré, c'est une maison dans la neige, une famille, le lendemain de Noël. Voilà, ça paraît complètement improbable que soit quelqu'un puisse surgir de l'extérieur, rentrer dans la maison, y passer un certain temps, planquer le corps, ressortir. Tout comme il paraît aussi improbable que cette famille qui a été unie jusqu'au bout et qui l'est encore aujourd'hui, voilà, ils s'entendent tous très bien, et puis commettre le crime. Donc voilà, ça, on reste face à des points d'interrogation.
J'ai dit, Thomas Cantaloube, que l'enquête, que la chef d'enquête, enfin une des chefs d'enquête avait claqué la porte à la fin des investigations et une fois que la famille était disculpée, est-ce que on trouvera un jour qui a tué la petite John Bennett?
Si vous me demandiez un pronostic, je vous dirais non. Je pense que voilà, il y a eu trop d'erreurs commises dès le départ sur la scène du crime comme je le disais aussi un peu auparavant, je pense qu'il manque aujourd'hui l'énergie et l'envie de continuer sur un cas qui effectivement a par ailleurs opposé procureur et police. Donc voilà, il y avait aussi des divisions au sein des enquêteurs. La famille n'a pas été très coopérative. Donc voilà, aujourd'hui, à moins d'un événement surprenant, comme on disait, quelqu'un qui parlerait.
Oui, bien sûr.
Mais refaire des analyses ADN, ça coûte cher aussi. Donc voilà, je pense que malheureusement, le département de la police de Boulder
n'a pas les moyens.
Et voilà.
Merci beaucoup Thomas Cantaloupe d'avoir été l'invité ce soir de l'heure du crime consacrée au meurtre non résolu de la petite Miss John Bennett Ramsey. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.